VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Information de première main, notre correspondant à Abidjan nous fait dire que le procès de Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, a été reporté à une date ultérieure pour permettre au juge en charge de dossier qui vient d'être nommé de s'installer. En Centrafrique, des casques bleus de la MINUSCA ont commencé à prendre position à Pombolo, une localité du sud-est du pays où des affrontements ces derniers jours entre groupes armés ont fait un nombre encore indéterminé de victimes. Les militaires onusiens vont vérifier les informations qui font état de violences qui auraient fait plusieurs victimes innocentes, selon un communiqué de la MINUSCA. Située entre les villes d'Alindao et de Bangassou, cette région est le théâtre depuis mai de violences récurrentes entre le groupe anti-Balaka et l'Union pour la paix en Centrafrique. L'UPC est un groupe armé peul issu de l'ex-Seleka. Au Libéria, le second tour de la présidentielle est fixé au 7 novembre. Il opposera le sénateur George Weah, légende du football africain, au vice-président sortant Joseph Boakai. Eric Manirakiza.
Les deux adversaires sont arrivés en tête le 10 octobre. Lors du premier tour, George Weah a obtenu 39% devant Joseph Boakai avec plus de 29%. La campagne a repris hier pour 18 jours et sera clôturée dimanche 5 novembre à minuit. Le 7 novembre, le scrutin permettra de désigner un successeur à Ellen Johnson Sirleaf, lauréate du prix Nobel de la paix. Elle a été élue une première fois en 2005. Elle ne peut plus se représenter après avoir brigué deux mandats de 6 ans. Le jour du premier tour, Mme Sirleaf a estimé que le Libéria était prêt pour la transition. Depuis 3 générations, c'est la première fois que le Libéria connaît une alternance à travers une élection démocratique. Le premier tour a connu une forte participation et 20 candidats étaient en lice. Les électeurs ont également renouvelé des 73 sièges de la Chambre des représentants.
Les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU ont débuté hier au Mali une tournée axée sur la constitution d'une force des pays du Sahel à l'initiative notamment de la France qui préside en octobre le Conseil de sécurité. Les ambassadeurs des 15 pays siégeant au Conseil visitent jusqu'à dimanche le Mali, la Mauritanie et le Burkina Faso, membres du G5 Sahel avec le Niger et le Tchad. La France entrevoit un possible modèle de coopération entre les troupes africaines et celles de l'ONU. Une réunion ministérielle sur le soutien au G5 Sahel est prévue le 30 octobre à l'ONU ainsi qu'une conférence des donateurs le 16 décembre à Bruxelles.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, il est 7h03. Donc, au Burkina Faso, l'autorité de lutte contre la corruption a épinglé la présidence de la République sur un trafic de carburant. 205 millions de francs CFA ont été ainsi dilapidés, nous dit Zoumara Wonogo, notre correspondant à Ouagadougou.
Les investigations des contrôleurs d'État ont porté sur 4 grands domaines que sont la commande publique, les comptes de dépôt, les régies d'avance, le carburant et les lubrifiants. Sur ce dernier point, la présidence du Faso a été épinglée comme la plus dévoreuse du carburant de façon irrégulière. Le président de l'autorité supérieure de contrôle d'État, Luc-Maurice Ibriga, explique.
Nous avons noté que la gestion du carburant était quelque peu informelle. Si vous savez que dans l'année, vous avez budgétisé 50 visites inopinées, peut-être que vous allez avoir 60 ou bien vous allez avoir 40. Mais en ce moment, vous savez comment vous allez faire. Mais si vous n'avez pas budgétisé, que bon, on réagit au cas par cas, il y a tel plénipotentiaire qui vient, on doit utiliser telle voiture, bon, il n'y a pas d'encadrement de l'utilisation des véhicules et du carburant, ben, certaines personnes peuvent passer par ce biais-là pour se servir du carburant et même ouvrir des petites stations.
Ousmane Jean-Pierre Siribier, le secrétaire général du contrôle d'État, renchérit en donnant les détails. On l'écoute.
En fait, le carburant, c'est des valeurs en définitive. C'est comme c'est de l'argent. Donc, les risques que nous avons à ce niveau, c'est que les gens, ils utilisent le carburant à d'autres fins. par exemple, aller échanger ça au niveau d'une station d'essence contre de l'argent. Un bon de carburant de 5 000, par exemple, ils peuvent aller l'échanger contre une somme d'argent.
Comment juge-t-on ce rapport d'audit du côté de l'opposition? Mamadou Kabré, le président du parti Prit Lanaya, donne son avis.
Ce rapport-là ne révèle pas en fait la vraie face de ce régime-là qui a eu à avoir des accointances avec le régime de M. Blaise Compaoré. La vraie face de ce régime-là, de M. Roch Kabore, va apparaître avec les rapports qui vont intervenir en 2017, 2018 et 2019, qui seraient une année avant l'année électorale. Parce que le régime de M. Roch Kabore, qui a eu des accointances avec le régime déchu, ils étaient passés maîtres justement dans l'art de passer les marchés à leurs copains et coquins pour justement avoir en retour des investissements pour leur campagne électorale.
Zoumana Ounogo, Ouagadougou, BOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé en août dernier la réduction de la période d'émission des factures d'eau par la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, la SODECI. Autrement dit, les abonnés de cette compagnie qui a le monopole de la distribution de l'eau dans le pays paieront désormais leurs factures tous les 2 mois au lieu de 3 mois. Cette décision ne fait pas l'accord des esprits. Siriki Barrow, notre correspondant à Boaké.
Les consommateurs sont pour la plupart inquiets. Comme ce commerçant du nom de Diao Mamadou, ils devront faire face aux factures d'eau parfois très élevées, 6 fois au lieu de 4 fois par an, en alternance avec les factures d'électricité émises par la compagnie ivoirienne d'électricité.
Vu les conditions dans lesquelles nous vivons présentement, rien ne bouge. Même les 3 mois là même pour payer, là, c'est un problème. Donc ils ont raccourci ça. Ma facture venait jusqu'à 25 000 et quelques.
Même son de cloche pour Conan Bertin, instituteur à la retraite qui ne vit aujourd'hui que de sa pension de retraite.
Aujourd'hui, vraiment, pour avoir l'argent, vraiment, c'est un peu difficile. Parfois, les factures arrivent aussi vraiment à un prix exorbitant. Vraiment, on ne sait pas à quoi est dû cela. Vraiment, nous, les clients, les consommateurs, nous avons des problèmes.
Avec une mesure pareille, avoir un puits à domicile peut s'avérer utile. C'est grâce à cela que Mme Kouakou, ménagère, arrive à supporter le coût de ses factures d'eau, même si elle avoue ne pas comprendre pourquoi le gouvernement a pris la décision de réduire le délai d'émission des factures.
Vraiment, on ne sait pas pourquoi ils ont mis à 2 mois. Sinon, en 3 mois, là, ça nous arrangeait. Les factures grimpent seulement. 3 mois, là, bon, comme moi, j'ai puits chez moi. Ces puits-là, j'ai plein pour faire tout. Mais puis, l'eau, là, c'est pour boire, et puis, souvent, c'est pour préparer. Donc souvent, mes factures venaient 3 000 et 15. Si c'est trop, peut-être c'est 4 000.
Notons toutefois qu'aucune date n'a pour le moment été annoncée par le gouvernement relativement à l'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure. Une mesure dont l'application pourrait rencontrer la résistance des populations. Siriki Barrow, Boaké, pour VOA Afrique.
L'ambassade des États-Unis au Sénégal a envoyé un message à ses ressortissants, leur recommandant la vigilance dans les lieux fréquentés par des étrangers à Dakar en raison d'une menace crédible liée à des activités terroristes potentielles. Contrairement à plusieurs de ses voisins, le Sénégal n'a jusqu'ici pas connu d'attentat. Dakar s'apprête à accueillir prochainement plusieurs réunions internationales de haut niveau, dont le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, les 13 et 14 novembre. L'épidémie de peste qui s'est déclarée à Madagascar fin août a fait 94 morts sur plus de 1100 cas, a indiqué aujourd'hui l'OMS qui a envoyé 1,3 million de doses d'antibiotiques sur place. L'agence sanitaire de l'ONU a mobilisé en puisant dans son fonds de contingence 1,5 million de dollars, mais l'OMS estime avoir besoin au total de 5,5 millions de dollars. À peine libéré du joug de l'État islamique, Raqqa pourrait repasser dès vendredi sous l'autorité civile, alors que les forces pro-américaines en Syrie se préparent déjà à rejoindre un autre front contre l'organisation djihadiste. La gestion de la ville pourrait être confiée dès aujourd'hui même au conseil civil de Raqqa, créé par des dignitaires locaux il y a 6 mois sous la houlette des FDS. Et puis, le gouvernement espagnol s'est entendu avec le Parti socialiste pour convoquer en janvier des élections en Catalogne en vertu de la constitution qui lui permet de suspendre l'autonomie de la région Mariano Rajoy, président du gouvernement, doit réunir demain un conseil des ministres extraordinaire pour entamer le processus de suspension de cette autonomie. Jean-Roger Billon à ce micro, le prochain journal dans 50 minutes par Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.